Frères et sœurs, le Dieu de Jésus-Christ nous accueille ce matin, selon les salutations qui étaient faites aux communautés du Nouveau Testament et actualisées pour nous. À l'Église de Dieu qui est à Uccle, celle qui est présente dans ce lieu de culte, ou vous qui êtes derrière votre écran, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais signaler au début de ce culte que pour tous ceux qui nous regardent en direct, ils peuvent trouver sur le site de l'Église, je pense, les cantiques, les paroles des cantiques qui vont être chantés par l'Assemblée et qui seront pour l'Assemblée projetés sur l'écran. Frères et sœurs, pour entrer dans ce lieu de culte, il était impératif ce matin d'avoir un masque, ce qui n'est certes pas habituel. Par contre, ce qui est nécessaire pour chacune de nos rencontres dans ce lieu, c'est d'avoir un bon éclairage. Le premier geste de la personne qui a ouvert les portes du temple ce matin était d'allumer les lampes. Alors que notre culte commence, nous pensons à une autre lumière, celle que la Bible, la parole de Dieu, nous fait découvrir. Et comme le roi David, que chacun de nous, aujourd'hui, puisse avec foi, avec certitude, déclarer « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Et nous pouvons ajouter que pour nous, nous croyons que Jésus est la lumière du monde. Je vous invite à vous lever pour chanter ce premier cantique que nous connaissons bien, « Je suis la lumière », a dit le Seigneur. « Je suis la lumière », a dit le Seigneur, « avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre. Brillons, brillons bien, toi, dans ton coin sombre, et moi, dans le mien. »
suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec toi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Si la pure flamme parfois baisse un peu, veillons sur notre âme, ravivons le feu. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Quand le jour se voile au clair firmament, la plus humble étoile brille doucement. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien.
Frères et sœurs, dans ce monde plein d'ombre, nous sommes invités à briller, à faire connaître celui qui éclaire nos cœurs, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il nous rappelle d'ailleurs ce matin, dans l'enseignement qu'il a apporté pendant son ministère sur la terre, « Nous sommes la lumière du monde, que cette lumière luise devant les hommes. » Malgré les gestes barrières recommandés en cette période, cette lumière, nous pouvons la faire briller grâce à l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Nous le savons, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je vous invite à célébrer le Seigneur par ce cantique. Venez le célébrer, le cantique 237.
Venez le chanter, le Fils de Dieu est venu. Donnez-lui la vie, nous te faisons honneur, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton amour, ta chant d'amour, Seigneur. Chanter notre roi, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu. Donnez-lui la vie, nous te fêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter. Notre roi, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi.
Je vous invite à un temps de prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que ton amour est toujours bien présent. Toi qui es la lumière, nous voulons te prier ce matin encore de venir nous éclairer, d'éclairer toute ton Église, afin que nous puissions utiliser dans ce temps particulier que nous vivons les dons que tu nous as confiés pour faire connaître ton amour, pour te rendre gloire. Que dans ce temps particulier, nous puissions être des signes de cette lumière qui fait connaître au monde la véritable espérance qui se trouve en Jésus-Christ. Nous voulons te prier, Seigneur, de nous guider dans ce temps de culte, afin que, par nos chants, par nos prières, nous puissions encore glorifier ton saint nom et nous mettre aussi à l'écoute de ta parole pour chacun d'entre nous. Seigneur notre Dieu, dans ce temps troublé, nous voulons te prier pour que tu nous donnes de rester fidèles à ta volonté, pour que nous puissions toujours être à l'écoute de ce que tu nous enseignes. Que ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous, ici présents, sur tous ceux qui sont derrière leur écran ce matin. Nous savons que tu veux les entourer de ton amour, de ta bénédiction. C'est au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur, que nous te prions. Amen. Frères et sœurs, nous sommes venus ce matin pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et je vous invite à réécouter les enseignements qui concernent la volonté du Seigneur pour chacun d'entre nous. L'expérience que nous vivons n'est pas particulière et j'aimerais ce matin la rappeler avec celle que l'apôtre Paul lui-même a connue. Je vous lirai quelques extraits dans la lettre aux Romains au chapitre 7 et à partir du verset 14 dans la traduction en français courant. Cette expérience de Paul peut-être, et est certainement aussi la nôtre, elle rejoint ce que nous vivons. Voici ce qu'il écrit. « Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis un être faible, vendu comme esclave au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Si ce que je fais, je ne le veux pas, je reconnais ainsi que la loi est bonne. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être faible que je suis. Certes, le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Je découvre ainsi ce principe, moi qui veux vivre le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Et puis ce cri de l'apôtre, malheur, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? J'aimerais que cette réflexion, cette prière, ce cri de l'apôtre, nous puissions le méditer pour chacun d'entre nous, que ce soit dans un temps de recueillement. Le texte que l'apôtre Paul a écrit est suivi d'un certain nombre de promesses extraordinaires. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Dieu soit loué par Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant donc, Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit-Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse, parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante pour enlever le péché. Il l'a condamné dans la teinture humaine en envoyant son propre fils vivre dans une condition semblable à l'homme pécheur. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous qui vivons, non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. Oui, le Seigneur nous laisse aussi cette promesse aujourd'hui. Dans une méditation entendue à la radio, un pasteur déclarait justement que le Christ, c'est le regard impossible de Dieu sur moi. Dieu nous voit tels que nous sommes, par le moyen de son Fils Jésus-Christ, qui est présent par le Saint-Esprit. Dieu nous voit et il nous assure de son pardon et de sa grâce. Même si nous ne sommes pas tous rassemblés dans ce lieu de culte, le Seigneur nous laisse cette promesse. Il est auprès de chacun de nous. Et c'est ce que nous voulons encore chanter maintenant. Tu es là, nous chantons la première strophe. Nous pouvons nous lever pour la chanter. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Rempli de cette grâce extraordinaire, comptant sur le Seigneur et nous appuyant sur lui, nous pouvons maintenant faire monter notre prière de louange. Elle sera introduite par les versets que l'on trouve dans le prophète Ésaïe au chapitre 12. Et après cette lecture, nous aurons, pour ceux qui le désirent, si une ou deux personnes veulent faire monter vers le Seigneur leur prière de reconnaissance, nous pourrons avoir ce temps de louange ensemble. Ésaïe au chapitre 12, nous lisons. Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, habitants de la commune d'Uccle, habitants de Belgique, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Frères et sœurs, que ceux qui le désirent puisse faire monter vers toi une courte prière de reconnaissance. Oui, Dieu est celui qui nous sauve et qui nous donne la vie en Jésus-Christ. Ayons ce temps de recueillement que nous terminerons par le cantique « Je chanterai l'Éternel ».
Et même quand nous ne pouvions pas nous réunir physiquement, mais tu nous as gardés comme une famille et nous voulons te remercier de faire partie de ta famille. Merci de ce que nous pouvons reprendre aussi le chemin de l'Église et nous revoir les uns les autres. Oui, Père, que nous puissions, partout où tu nous as placés, à la maison, dans les magasins, sur notre lieu de travail, être comme le psalmiste dit, ceux qui te louent et qui jubilent de manière à montrer à ceux qui nous entourent combien ton nom est grand et combien nous sommes heureux de t'appartenir. Amen.
Amen.
Toi seul es puissant pour nous délivrer de la mort et de la puissance du péché. Toi seul nous as accueillis dans la famille de tes enfants. Et toi seul, par le Saint-Esprit, continue à travailler pour nous transformer avec tant de patience pour que nous ressemblions à Jésus-Christ. Gloire, honneur et puissance à toi, le seul Sauveur, le seul Seigneur, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen.
Amen. Amen. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai l'Éternel, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Levons-nous pour entonner ce cantique.
Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables, lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu.
Nous allons nous préparer à la lecture de la parole de Dieu. C'est notre sœur Michèle qui s'en chargera. La première lecture se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, les versets 29 à 35.
Seigneur, tu nous vois rassemblés autour de ta parole. Nous voulons te demander que ton esprit nous vienne en aide afin que nous la comprenions, que nous nous l'approprions et que nous puissions en vivre et l'apporter autour de nous. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Moïse descendit du mont Sinaï, les deux tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de l'assemblée vinrent vers lui et il leur parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait dans la présence de l'Éternel pour parler avec lui, il retirait le voile jusqu'au moment où il ressortait, et quand il sortait, il transmettait aux Israélites les commandements qu'il avait reçus. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec l'Éternel. Seconde lecture se trouve dans 2 Corinthiens 3, les versets 7 à 18. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait et qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux? En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. De même, de ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Puisque nous avons une telle espérance, faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites fixent les regards sur la fin d'une réalité passagère, mais avec intelligence. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et c'est là où est l'Esprit du Seigneur qu'est la liberté. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur.
Merci Michel, merci pour cette lecture de la parole de Dieu. Je voudrais m'assurer que tout le monde m'entend bien malgré ce masque. C'est très clair, je peux le laisser? Ok. Alors frères et sœurs, nous sommes réunis ce matin pour vivre un culte dans des conditions bien particulières. À cause d'un virus qui a envahi notre planète, nous sommes tous entrés dans ce temple le visage couvert d'un masque. La prudence est de mise. Et seul le Seigneur pourra voir les expressions que notre visage va manifester pendant ce temps que nous passons en sa présence. Se couvrir le visage. Cette pratique n'est pas inconnue dans les textes bibliques, dans les récits de l'Ancien Testament en particulier. Nous allons en découvrir quelques-uns. Nous sommes au début de l'histoire du peuple d'Israël qui va se former à partir d'un couple très âgé, celui d'Abraham et de Sarah. Nous trouvons ce récit de la préparation du mariage de leur fils Isaac. Et Rebecca, la future épouse, est en route vers la famille d'Abraham. Isaac, son futur mari, qui est en fait son petit cousin, elle ne la connaît pas. Elle ne le connaît pas. Et je vous propose de relire quelques versets qui nous montrent comment cette rencontre va avoir lieu. Se trouve dans le livre de la Genèse à partir du verset du chapitre 24 et du verset 63. Genèse 24 à partir du verset 63. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans la campagne, il leva les yeux et vit des chameaux qui arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac sauta du chameau et dit au serviteur : « Qui est cet homme dans la campagne qui vient à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit : « C'est mon Seigneur. » Et le texte ajoute : « Alors, elle prit son voile et se couvrit. » La coutume de l'époque voulait qu'une femme se voile devant un étranger, particulièrement devant l'homme qui devait l'épouser. On peut imaginer que cette tradition était un signe de discrétion ou même de pudeur. Le mot hébreu traduit par voile est ici très rare et on le retrouve une deuxième fois un peu plus loin dans l'histoire d'Israël. Puisque ce peuple va se former petit à petit, le couple qui vient de se former aura deux enfants, des jumeaux, Ésaü et Jacob. Et Jacob va donc fonder une famille qui va donner naissance aux 12 tribus d'Israël. Et le voile va de nouveau être cité dans un récit qui nous parle d'un de ses fils, de Judas. Et c'est une histoire particulière qu'on trouve dans le chapitre 38 de la Genèse. En résumé, voici de quoi il s'agit. Dans ce passage, Tamar était devenue la belle-fille de Judas. Elle a épousé le premier fils qui est mort sans enfant. Selon la coutume, elle devait épouser le suivant, le deuxième fils, qui meurt aussi sans enfant. Et puis, il y a le troisième fils qui était plus jeune. Tamar était plus âgée, probablement, mais elle se rend compte qu'on ne veut pas lui donner ce troisième fils comme mari pour donner une succession à la famille. Alors, elle va trouver un stratagème. Elle va se couvrir le visage d'un voile pour dissimuler son identité. Elle se déguise pour arriver à ses fins. Prise pour une prostituée, elle deviendra enceinte de son beau-père et elle va mettre au monde deux enfants dont l'un des deux sera l'ancêtre du roi David. Alors voilà, le même voile porté par deux femmes va servir pour l'une de pudeur, de discrétion et pour l'autre de dissimulation, de ruse, mais de détermination dans son projet. Et voilà que nous trouvons un troisième texte dans l'Ancien Testament, et c'est celui que nous avons lu ce matin. Il concerne cette fois le voile porté par Moïse. Nous avons lu dans ce chapitre 34 de la Genèse, lorsque Moïse descendait de la montagne, il avait les deux tables du témoignage dans les mains, et en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Alors Moïse va appeler Aaron, les principaux sacrificateurs. Il va leur parler. Et après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent. Moïse leur donna les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne. Et lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il prit un voile et il le mit sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile. Et lorsque il avait eu l'occasion de parler aux enfants d'Israël de tout ce que Dieu avait ordonné, Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât de nouveau devant l'Éternel. Pourquoi ce récit ? Eh bien, tout simplement parce que dans ce texte où Moïse reçoit pour la deuxième fois les tables de la loi, puisque les premières avaient été brisées suite à l'idolâtrie du peuple, Moïse s'est donc voilé le visage. Et ici, le terme en hébreu pour désigner ce voile est différent. Et il est probablement unique dans l'histoire de la Bible. Il désigne une étoffe qui couvre le visage. C'est une sorte de masque. Et nous avons lu ce texte parce que l'apôtre Paul va reprendre ce récit, justement, où Moïse a dû mettre un masque pour nous apporter un enseignement. Cet enseignement, il va l'apporter à la communauté de Corinthe, où le texte nous dit ceci, c'est ce que nous avons lu. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Dans son contact avec Dieu, Moïse revenait avec un visage tout illuminé, mais ce rayonnement ne durait pas. Le voile porté par Moïse cachait en quelque sorte cette extinction lumineuse, et l'apôtre Paul va en tirer les conclusions suivantes. C'est à cela que ce texte nous enseigne aussi ce matin. Le ministère de Moïse était fondé sur la loi, et ce ministère n'était pas destiné à se poursuivre, il devait s'arrêter un jour. La loi ne conduit qu'à la condamnation de celui qui la transgresse et à une série de sacrifices toujours répétés pour expier les fautes. La loi était donc nécessaire, elle était même bonne, cette loi, mais son action est limitée dans le temps. Dieu veut offrir aux hommes plus qu'une condamnation suivie de toute une série de sacrifices. Le ministère de la loi est important, et Jésus l'a souligné dans son enseignement, puisqu'il a dit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi, je ne suis pas venu l'abolir, mais je suis venu pour l'accomplir. » Ce ministère de la loi va donc s'arrêter lorsque cette loi sera accomplie par le sacrifice parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, le Fils de Dieu, a pris sur lui la condamnation des pécheurs que nous sommes tous. Jésus inaugure donc une nouvelle ère, un nouveau ministère, celui de la grâce par lequel l'homme pécheur peut être pardonné et justifié. Ce ministère n'est pas limité. Ce ministère est permanent dans notre monde tant qu'il y aura des êtres sur la terre. Quelle sera la conséquence de ce ministère dans notre vie? C'est ce que l'apôtre Paul va rappeler dans les versets qui vont suivre notre lecture. Il dira ceci: le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux. C'est le ministère de la loi. Combien plus le ministère de l'Esprit sera-t-il plus glorieux? Ce ministère de la condamnation a été glorieux, mais à plus forte raison, le ministère de la justice est supérieur en gloire. L'apôtre Paul va nous parler ici de deux sortes de ministères. Le premier ministère, celui de la loi qu'il nomme le ministère de la mort. Et le deuxième ministère, le ministère de l'Esprit, appelé aussi le ministère de la justice. L'un a été glorieux, mais il est passager. L'autre a été bien plus glorieux, mais il est permanent. Alors, frères et sœurs, ce matin, souvenons-nous, nous sommes aujourd'hui au bénéfice de ce ministère de l'Esprit qui atteste l'œuvre parfaitement accomplie par Jésus pour notre salut. En Jésus, justice est faite pour régler une fois pour toutes la dette de nos péchés. Toute la lettre aux Hébreux que l'on trouve dans le Nouveau Testament est une explication claire du passage nécessaire de cette ancienne alliance fondée sur les sacrifices vers la nouvelle alliance en Jésus par son sacrifice unique, car ce sacrifice débouchait sur la victoire sur la mort et sur le péché. On peut lire notamment dans la lettre aux Hébreux ces versets: nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Dans l'ancienne alliance, les péchés étaient couverts par des sacrifices constamment répétés. Et dans la nouvelle alliance, Jésus vient pour, non pour couvrir nos fautes, mais pour ôter une fois pour toutes nos péchés et nous ouvrir ainsi accès à la présence de Dieu. Alors, frères et sœurs, N'oublions jamais, nous sommes au bénéfice de ce ministère de l'Esprit. Qu'est-ce que cela signifie ? Le texte nous le dit au verset 14. Le voile, le masque est ôté en Jésus-Christ. Jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Mais il n'est enlevé, ôté, parce qu'il ne disparaît qu'en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Le voile est ôté. C'est-à-dire que par Jésus, par l'Esprit, nous sommes conduits dans une nouvelle compréhension des Écritures. La clé de compréhension de la parole de Dieu, c'est Jésus. C'est notre foi, notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. La loi qui se fait intermédiaire entre Dieu et les hommes devient un obstacle pour comprendre l'enseignement de la Bible, qui est le véritable Dieu, ce Dieu que Jésus est venu révéler. Frères et sœurs, sans Jésus, il est impossible de comprendre que la loi ne peut conduire au salut, mais qu'elle est l'annonce d'un chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. Ce chemin, c'est le vrai, c'est celui qui conduit à la vie. Que penser dès lors, aujourd'hui ? Dans un monde où il y a tant de religions différentes, où il y a tant de gens qui enseignent encore la pratique d'une loi pour vivre selon la volonté de Dieu. Que penser de ceux qui ajoutent d'autres intermédiaires entre Dieu et les hommes ? Leur esprit est toujours voilé. L'Ancien Testament est masqué pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus comme Messie. Le Nouveau Testament ne peut être compris qu'après avoir découvert que Jésus est le Sauveur, le Libérateur, qui a tout accompli, qu'il est ce chemin, le seul, qui conduit vers Dieu. L'apôtre Paul devait le rappeler dans son enseignement parce que cela était déjà important de le souligner à son époque. Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Oui, frères et sœurs, par Jésus, notre communion avec Dieu est devenue possible. Et le ministère de l'Esprit nous indique comment cela est possible. Le texte que l'apôtre Paul nous laisse ce matin dans les Corinthiens nous dit « Le voile ou le masque est ôté par notre conversion, par un retour vers Dieu. » Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur, mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Le ministère de l'Esprit, c'est celui de Jésus. C'est lui qui nous apporte la véritable liberté, nous dit le verset qui suit. Son ministère, le ministère du Seigneur, est de nous convaincre. De nous convaincre, nous le savons, c'est important de le répéter, de nous convaincre de la nécessité du changement de notre cœur. Maintenant que le voile est ôté, nous sommes devenus véritablement libres. Sans cette expérience personnelle, le voile nous empêche de découvrir l'ampleur de l'œuvre accomplie par Jésus. Cette expérience est indispensable. Elle n'est pas nécessairement enseignée partout. Cette expérience, c'est une véritable conversion, non pas une adhésion à des principes, à une religion, non, mais une transformation intérieure, une transformation de notre cœur. Elle produit un réel changement au travers de la repentance et de la confession de nos fautes. Cette transformation n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est le ministère du Saint-Esprit qui peut l'accomplir lorsqu'il vient habiter dans notre vie et nous donner la certitude que nous sommes devenus des enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Le voile d'incompréhension est ôté en Christ par notre retour à Dieu. Le Saint-Esprit, qui est Jésus, nous enseigne alors toutes choses concernant les Écritures, et nous rend véritablement libres. Mais le Saint-Esprit, ce ministère, va encore plus loin. Le texte nous dit, nous tous, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Oui, frères et sœurs, prenons conscience que l'œuvre de Saint-Esprit, de ce ministère, c'est de continuellement nous transformer, continuellement agir dans notre vie pour que nous puissions refléter la présence de notre Seigneur, refléter sa gloire, sa grandeur. Oui, le ministère de l'Esprit, c'est celui de continuer à agir puissamment dans chacune de nos vies. Même si ça fait des années que nous avons accepté de nous tourner vers le Seigneur, chaque jour, nous devons le laisser agir pour nous transformer. Et lorsque nous sommes conscients de cette bénédiction, alors nous sommes poussés à lui rendre un culte, à prier pour lui dire merci, pour le louer, mais aussi en vivre les conséquences qui sont les fruits de l'Esprit. Le ministère alors de l'Esprit, lorsqu'il agit puissamment, rejoint une des prières de Jésus que l'on trouve dans l'Évangile selon Jean. « Père, disait Jésus, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. » C'est un texte important qui exprime la volonté du Seigneur à notre égard. Et enfin, ce ministère de l'Esprit nous enseigne aussi quelque chose d'important. Le voile est ôté pour nous présenter devant Dieu. Et nous nous présentons sans voile, mais nous nous présentons revêtus de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul a dû l'enseigner aussi dans son ministère. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, sans masque, mais couvert par le Seigneur lui-même. Nous avons revêtu Christ. Jésus nous revêt de son manteau de délivrance, de liberté, et cela va dès lors conditionner notre manière de vivre, qui doit être nouvelle. Nous sommes porteurs de Christ, de son message de grâce, de son message de pardon, de son message d'amour que nous sommes appelés à vivre. Nous sommes appelés à être la lumière du monde, selon l'enseignement que Jésus nous a rappelé au début de ce culte. La conversion à Jésus-Christ transforme notre manière de vivre et nous conduit à la découverte aussi de réalités nouvelles. En étant revêtus de Christ, nous sommes invités à vivre sous son autorité et dépendant de sa volonté. Ce revêtement ou cet habit sont des signes spirituels qui doivent déterminer notre manière de vivre. La vie spirituelle de chrétien ne dépend pas d'un signe vestimentaire, mais de sa relation profonde avec le Seigneur Jésus-Christ et de l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Frères et sœurs, en ce temps de déconfinement, le port du masque ne doit pas altérer cette communion, même si nos relations humaines sont parfois un peu plus difficiles, distantes, que l'Esprit nous aide à trouver des adaptations. J'aimerais terminer ce temps de réflexion par quelques remarques. Ce temps de pandémie a provoqué sur le plan mondial un réel bouleversement dans notre manière de vivre. Nous avons bien mesuré la fragilité de notre vie face à un petit virus qui ravage toute notre humanité. Certains connaissent des moments de solitude et s'interrogent quant à l'avenir. Peut-être avons-nous été confrontés par la maladie d'un proche ou même par son hospitalisation. Le personnel médical a été particulièrement sollicité, et aujourd'hui, maintenant, c'est tout à fait d'actualité, il craint une reprise des contaminations. C'est pour ça que depuis hier, le port du masque est obligatoire dans tous les commerces, dans tous les lieux fermés où nous nous trouvons. Aujourd'hui, de nombreuses familles vivent dans le deuil et se sentent abandonnées. Oui, notre planète est touchée par un terrible fléau. Notre monde a besoin de trouver un nouveau chemin d'espérance. Jésus nous comprend. Jésus est à nos côtés. Il nous comprend pour la raison que nous connaissons tous. Jésus a connu des temps d'angoisse, des temps de lutte, des temps de grande souffrance, jusqu'à s'écrier au moment ultime de sa vie sur la terre, alors qu'il était condamné injustement, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et après ce terrible cri d'angoisse, voilà que le rideau du temple, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, le rideau du temple de Jérusalem s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. C'était le signe que l'accès dans la présence de Dieu ne dépendait plus de la loi, mais du sacrifice unique et parfait que Jésus était en train d'accomplir. Jésus nous ouvrait un chemin nouveau, un chemin de vie par sa résurrection, qui a été le signe que la mort et le péché étaient vaincus. Alors, frères et sœurs, nous sommes invités à vivre ce temps particulier, marqué par des gestes barrières, comme une manière nouvelle de vivre notre foi, de briller grâce à notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a ouvert l'accès dans la présence de notre Dieu. L'apôtre Paul, qui s'est retrouvé en prison, seul, souvent, abandonné, persécuté, trouvait encore la force d'encourager les premiers chrétiens en disant « Brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. » Alors, frères et sœurs, que cette exhortation soit pour chacun d'entre nous, ce matin, pour ce que nous allons vivre dans cette semaine, un réel encouragement. Amen. Je vous invite à vous unir dans la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, tu nous as donné ce matin le privilège et la joie de nous retrouver en ta présence. Tu nous as rappelé que tu es cette lumière qui vient éclairer notre vie, Tu nous as rappelé l'importance de ce ministère de l'Esprit en chacun de nous. Donne-nous de pouvoir, jour après jour, nous laisser guider et éclairer par toi. Nous voulons te prier tout spécialement pour la communauté que nous formons, pour tous ceux qui n'ont pas pu se présenter ce matin dans ce lieu de culte, pour tous ceux qui sont derrière leur écran, pour tous ceux qui se retrouvent peut-être seuls avec leurs soucis, avec leurs combats. Nous te prions d'être pour chacun celui qui rassure, qui console et qui conduit sur ce chemin d'une espérance nouvelle. Merci Seigneur de guider aussi ton Église qui vit depuis bien plus longtemps encore dans la souffrance, à cause de la persécution, à cause de la guerre. Nous voulons te prier, Seigneur, pour que dans ces conditions difficiles, là aussi tes enfants puissent être un reflet de ton amour et de ta grâce. Seigneur notre Dieu, nous voulons aussi te prier pour les autorités qui dirigent nos pays, qui ont besoin de ton esprit de sagesse pour prendre les meilleures décisions dans ce temps difficile. Et nous te prions aussi pour que nous puissions être disciplinés pour suivre ces consignes, que nous puissions aussi, Seigneur, être éclairés par toi dans la manière de pouvoir marquer du respect pour ceux que nous rencontrons. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour le ministère de ton Église bien difficile dans ces conditions. Mais nous te remercions pour tous ceux qui, par les dons que tu leur as confiés, par tous ces moyens techniques modernes qui existent aujourd'hui, nous te remercions parce que, par ces moyens-là, ton Évangile peut être annoncé, proclamé à grande échelle. Merci, Seigneur, de bénir au sein de notre communauté tous ceux qui ont mis et qui mettent à ton service leurs dons pour que la vie de l'Église se poursuive dans tous ses détails encore possibles aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, merci de nous accorder dans cette nouvelle semaine qui s'ouvre pour nous la joie de vivre de ta présence. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous te prions. Amen. C'est le temps des annonces qui sont un peu réduites en cette période, évidemment, de l'année et dans les circonstances que nous connaissons. En ce qui concerne notre offrande, nous sommes invités à privilégier les versements bancaires pour la vie de notre Église. Mais pour ceux qui désirent apporter une offrande matérielle ce matin, je pense qu'il y a un panier qui se trouve sur la table à la sortie et vous pouvez déposer là ce que vous avez préparé. Je voudrais remercier tous ceux qui sont engagés dans l'organisation de la vie de l'Église dans ces moments particuliers. Merci de mettre au service du Seigneur les dons qu'il vous a accordés. Continuons, Seigneur, continuons, frères et sœurs, à penser à ceux qui sont peut-être encore engagés dans des moments de difficiles. Pensons aux uns et aux autres. Prions les uns pour les autres. Pensons surtout à ceux qui sont absents pour des raisons que nous ne connaissons peut-être pas. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Je pense que nous pouvons penser à des familles qui continuent à s'agrandir, des nouvelles vies qui se préparent. Et peut-être ce matin, ne connaissant pas nécessairement tous ceux qui sont présents, on a aussi l'habitude d'accueillir des nouveaux venus. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui ne font pas partie habituellement de la communauté et qui sont au milieu de nous? Voilà. C'est un couple qui vient d'où?
Nous venons de Bruxelles, ici, à Molenbeek.
Soyez le bienvenu au sein de la communauté.
Merci.
Alors, je ne suis pas le pasteur de l'église, je suis simplement un pasteur remplaçant. Et le pasteur de l'église se trouve juste un peu derrière vous. Il aura certainement l'occasion de prendre connaissance avec vous et de parler avec vous juste à la sortie. En général, dans les cultes normaux, il y a un temps de rencontre fraternelle autour d'une tasse de café. Pour le moment, évidemment, ce n'est pas possible. Mais je pense que vous pouvez avoir l'occasion de partager ce moment avec le pasteur qui se trouve juste derrière nous et qui s'appelle Luc Noukoussa.
En tout cas, un grand merci.
Soyez le bienvenu.
Merci.
Alors, est-ce qu'il y aura... Ah oui, je rappelle aussi que normalement, nous avons repris les réunions de prière le jeudi. Donc ce jeudi, il y aura à 19h30 dans ce lieu de culte, ici dans le temple, notre réunion de prière pour tous ceux qui désirent se joindre à nous. Eh bien, c'est important que la vie de la communauté continue à être portée dans la prière en commun. Est-ce qu'il y a d'autres informations à partager ce matin ? Non ?
C'est juste rappeler que tous les dimanches, il y aura culte.
Oui, tous les dimanches, il y a un culte qui sera organisé. Alors, je vous invite, frères et sœurs, pour terminer notre rencontre, à vous lever pour recevoir de la part du Seigneur une exhortation et la bénédiction. Et nous terminerons par le cantique « Sur le chemin où tu m'appelles ». Une exhortation que nous trouvons dans la lettre aux Hébreux. Ainsi, frères et sœurs, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce au sang et au sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire de son propre corps. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu est fidèle à ses promesses, et veillons les uns sur les autres. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Sur le chemin où tu m'appelles, ta force affermira nos pas. Chantons ensemble ce dernier cantique.
Ta force affermira.